Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1. C'est dans le cadre des Nuits de la Lecture qui se dérouleront du 19 au 22 janvier que nous vous proposons l'émission Frissons sur les ondes. Ce sont les élèves de la classe de seconde D du lycée Raoul Folraud qui vont vous faire leur lecture expressive effrayante autour de la peur.
Extrait du roman « Enfance » de Nathalie Sarraute, publié en 1983. Et aussitôt, ça y est, ça m'est arrivé. Maman le savait. Maman sait tout. C'est sûr, je suis morte. Je cours derrière eux en hurlant. Je cache ma tête dans les jupes de maman. Je crie de toutes mes forces. Je suis morte. Ils ne le savent pas. Je suis morte. Mais qu'est-ce que tu as ? Je suis morte, 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 morte. J'ai touché le poteau, voilà. Ça y est. La chose horrible, la plus horrible qui soit, était dans ce poteau. Je l'ai touchée et elle est passée en moi. Elle est en moi. Je me roule par terre pour qu'elle sorte. Je sanglote. Je hurle. Je suis morte. Ils me soulèvent dans leurs bras. Ils me secouent. Ils m'embrassent. Mais non, tu n'as rien. J'ai touché le poteau. Maman l'a dit. Elle rit. Ils rient tous les deux, et cela m'apaise.
Extrait du conte de Barbe Bleue de Charles Perrault, publié en 1697. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta, quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se mirait le corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre.
Extrait littéraire de la nouvelle Le Horla de Guy de Maupassant qui parut en 1886. J'avais oublié mes domestiques, je vis leurs faces affolées et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdu d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « au secours, au feu, au feu !» Je rencontrai des gens qui s'en venaient déjà et je retournai avec eux pour voir. La maison, maintenant, n'était plus qu'un bûcher, horrible et magnifique, un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre, un bûcher où brûlaient des hommes, et où il brûlait aussi. Lui mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla.
Extrait du journal d'Anne Frank, publié en 1947. Nous ne pensions à rien, restions assis là dans l'obscurité totale, car Madame, de peur, avait complètement dévissé l'ampoule. Les voix chuchotaient. À chaque craquement, on entendait des « chut, chut ». 10h30, 11h passèrent. Pas un son. Chacun leur tour, papa et Vandan vinrent nous voir. Puis à 11h15, des bruits en bas. Chez nous, on entendait distinctement respirer toute la famille. Pour le reste, nous étions immobiles. Des pas dans la maison, dans le bureau privé, dans la cuisine, puis dans notre escalier, tout le monde retenait son souffle. 8 cœurs battaient à tout rompre. Des pas dans notre escalier, puis des secousses à notre porte-bibliothèque. Moment indescriptible. « Nous sommes perdus !» dis-je. Et je nous voyais tous les 8 emmenés la nuit même par la Gestapo.
Extrait de la nouvelle « Le monstre » de Dino Buzzati, publié en 1966. Mais la porte ne céda pas. Elle s'ouvrit d'un ou 2 centimètres, puis se bloqua avec un bruit métallique. La jeune fille sursauta. Elle se figeait et son cœur battait fort. Y avait-il quelqu'un derrière la porte ? Puis elle s'aperçut qu'on avait fixé une chaîne de sécurité, attachée par 2 anneaux qu'elle n'avait jamais vus, l'un sur l'encadrement, l'autre sur le battant. Cela empêchait la porte de s'ouvrir. Guita recula d'un pas. Effrayée. Qui avait fermé le cagibi et pourquoi ce soir, justement, alors qu'avant il était toujours resté ouvert? Qui avait donné cette consigne? Et pourquoi tant de hâte? Peut-être que là, dedans. Pourtant, il sortait de là un tel silence, un silence effrayant.
Extrait du roman Frankenstein de Mary Shelley, publié en 1818. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je vis enfin mon œuvre terminée. Avec une anxiété mêlée de terreur, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre d'infuser l'étincelle de vie dans cette chose inerte gisant à mes pieds. 1 heure du matin venait de sonner et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie presque entièrement consumée jetait une lueur vacillante lorsque tout à coup je vis s'ouvrir l'œil jaune et vitreux de cet être. Sa poitrine se souleva et il commença à respirer péniblement. Brusquement, un mouvement convulsif agita ses membres.
Extrait du roman Salem de Stephen King, publié en 1975. Quelque chose l'avait réveillé. Il resta immobile, les yeux levés vers le plafond, dans l'obscurité totale. Un bruit. Du bruit. Mais non. La maison était silencieuse. Ah ! Ça recommençait. Un grattement. Marc Petrie changea de position et regarda à côté de la fenêtre. Danny Leek l'observait à travers la vitre. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, ses yeux rouges et luisants comme ceux d'un animal sauvage. Un liquide noirâtre lui coulait des lèvres sur le menton et, quand il vit le regard de Marc fixé sur lui, il découvrit ses dents longues et pointues en un sourire hideux. « Laisse-moi entrer !» murmura la voix.
Je vais vous lire un extrait de la nouvelle « Le mystère de Marie-Roger » de Edgar Allan Poe, publié en 1842. Mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention. Cette voix particulière, cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme, étranglée par la force des mains, et introduite dans une cheminée, la tête en bas. Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes.
Extrait du roman « L'ensorcelé » de Jules Barbeil d'Aurevilly, publié en 1852. L'horloge qui sonna avait un timbre grêle et clair qui marqua minuit. Nous le remarquâmes, car nous avions compté l'un et l'autre et nous ne pensions pas qu'il fût si tard. Mais le dernier coup de minuit n'avait pas encore fini d'osciller à nos oreilles, car un point plus distant et plus enfoncé dans l'horizon, nous entendîmes résonner, non plus une horloge de clocher, mais une grosse cloche, sombre, lente et pleine, et dont les vibrations puissantes nous arrêtèrent tous les deux pour les écouter. « Entendez-vous, maître Tenbout ? » dis-je un peu ému. « Je l'avoue, de cette sinistre clameur des reins dans la nuit, on sonne à cette heure. Serait-ce le feu ?»
Extrait du recueil de nouvelles « Le mythe de Cthulhu » de Howard Phillips Lovecraft, publié en 1928. Le tonnerre, de plus en plus fort, avait dû influencer mes rêves. Mon bref sommeil fut plein de visions d'apocalypse. Je m'éveillais à moitié, sans doute parce que Bennett, en dormant, avait jeté son bras en travers de ma poitrine. Je n'étais pas suffisamment éveillé pour voir si Tobé s'acquittait convenablement de ses devoirs de guetteur. Cependant, j'étais très anxieux. Jamais la présence du mal ne m'avait oppressé à ce point. J'ai dû me rendormir, car c'est d'un chaos plein de fantasmes que j'émergeais lorsque des cris hideux déchirèrent la nuit. Des cris tels que je n'en avais jamais entendus, ni même imaginés.
Je vais vous lire un extrait de la nouvelle « Sur l'eau » de Guy de Maupassant, publiée en 1881. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque, que je ne pouvais plus distinguer, et que la rivière, cachée par ce brouillard opaque, devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer, et, perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis, aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis,
perdu, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pouvais éviter. Râlant de peur, ne voyant plus la berge, ne retrouvant plus mon bateau, et il me semblait que je me sentirais tiré par les pieds tout au fond de cette eau noire.
Je vais vous lire un extrait du roman Le Sanctuaire de Laurine Roux, et il s'agenouille pour piquer mon nombril de son couteau. Le contact du métal m'électrise. L'homme se met à rire. Quand son haleine gâtée me parvient, je détourne le visage. Mais ce n'est rien comparé au bout de tunique qu'il déchire et noue autour de mes yeux. Je porte la main à mon nez. L'ermite ordonne à l'aigle de rejoindre son perchoir. Libérée du poids de l'oiseau, je me sens presque inconsistante. Le vieillard ne me laisse pas le temps de m'en émouvoir, me pousse en avant. La blessure à mon épaule m'arrache une protestation. Il me somme de me taire.
Nous allons faire une petite pause dans les lectures et laisser place au morceau de Michael Jackson, Thriller.
Midnight hour is close at hand. Creatures crawling search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Nous revenons sur BAC FM 106.1 pour continuer les lectures de textes effrayants.
Extrait de la nouvelle L'homme au sable de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, publié en 1816. C'est un méchant homme qui vient trouver les enfants lorsqu'ils ne veulent pas aller au lit et qui leur jette une poignée de sable dans les yeux, à leur faire pleurer de sang. Ensuite, il les plonge dans un sac et les porte dans la pleine lune pour amuser ses petits-enfants qui ont des becs tordus comme des chauves-souris et qui leur piquent les yeux à leur faire mourir. Dès lors, l'image de l'homme au sable se grava dans mon esprit d'une façon horrible. Et le soir, dès que les marches retentissaient du bruit de ses pas, je tremblais d'anxiété et d'effroi.
Extrait du roman perdu sur Maya Bora de Jean Quiloré, publié en 1994. Une tempête, a dit maman. Héloïse, m'a crié papa, pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Rentre dans ta cabine, vite! J'ai mis Arthur dans mon t-shirt et j'ai couru vers l'arrière. À cet instant, le vent a tourné, le bateau s'est penché comme s'il allait chavirer. C'est alors que j'ai vu la vague. Elle venait sur nous par le côté à toute vitesse. Et elle faisait le bruit d'un avion à réaction qui décolle. Ce n'était pas une simple vague, c'était une montagne qui nous cachait et qui allait s'écrouler sur nos têtes. J'ai crié « Attention !»
Extrait du roman « Misery » de Stephen King, publié en 1987. Il la regardait, les yeux écarquillés, remplis d'une ignoble nausée d'horreur. L'image du corps nu de Pomeroy lui vint à l'esprit, cadavre flottant dans la baignoire de la salle de bain du bas, comme un morceau de chair crue. La tête appuyée de travers contre la porcelaine, les yeux grands ouverts, tournés vers le plafond. « Il le fallait, » reprit-elle, les lèvres lui découvrant un peu les dents. « Vous ne vous doutez pas de ce que la police peut faire avec un simple bout de fil ou un peu de boue sous les ongles, ou même avec de la poussière dans les cheveux d'un cadavre. »
Extrait 2 du roman Frankenstein de Mary Shelley, publié en 1818. Je tressaillis et m'éveillai dans l'horreur. Une sueur froide me couvrait le front, mes dents claquaient, tous mes membres étaient convulsés. C'est alors qu'à la lumière incertaine et jaunâtre de la lune traversant les persiennes de ma fenêtre, j'aperçus le malheureux, le misérable monstre que j'avais créé. Il soulevait le rideau du lit et ses yeux, s'il est permis de les appeler ainsi, étaient fixés sur moi.
Extrait du roman « Je ne veux pas aller au tableau » de Daniel Fossette, publié en 1997. En fait, c'est le jeudi que la maîtresse envoie un élève au tableau pour corriger les mathématiques, et moi, j'ai très peur d'aller au tableau. Et quand j'ai peur, je ne sais même plus compter. Je ne peux pas en parler à mes copains, ils se moqueraient de moi. Je suis sûrement le seul à avoir honte, et j'ai peur. Je ne peux pas non plus parler à la maîtresse, elle me dirait que je n'ai pas bien appris mes tables d'addition. Pourtant, je les ai revues avec mon grand frère. Rien qu'en pensant à ma copine Pauline qui récite tout par cœur quand elle va au tableau, je me sens tellement nulle que mon ventre est encore plus malade. Dans le bus qui nous amène à l'école, tout le monde rit et parle. Mais moi, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à ce maudit tableau.
Extrait du roman Dracula de Bram Stoker, publié en 1897. Oui, il rampait comme une bête, avec son manteau qui flottait dans le vent, comme deux monstrueuses ailes animales. D'abord, je ne voulus pas en croire mes yeux, je me dis que la clarté de la lune me jouait des tours ou que l'ombre m'empêchait de distinguer ce qui se passait. Quelques moments d'attention suffirent pour me prouver que je ne rêvais pas. Je distinguais les doigts et les orteils qui s'agrippaient aux angles des moellons sans mortier et qui se servaient de la moindre aspérité. De la plus petite saillie pour descendre à une vitesse étonnante. Comme un lézard le long de sa muraille. Quel homme était-ce donc, ou plutôt, quelle créature sous une apparence humaine? Je sentis soudain m'envahir toute la menace de cet horrible endroit. J'ai peur. Une peur atroce. D'autant plus atroce que je la sais sans issue.
Extrait de la nouvelle Le Horla de Guy de Maupassant, publié en 1886. J'entrais dans le bois de Boulogne et j'y restais longtemps, longtemps. Un frisson singulier m'avait saisi et une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie. Je marchais longtemps, longtemps, puis je revins. Quelle heure était-il quand je repassais sous l'Arc de Triomphe? Je ne sais pas. La ville s'endormait et des nuages, de gros nuages noirs s'étendaient lentement sur le ciel. Pour la première fois, je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange. De nouveau, il me semblait qu'il faisait froid, que l'air s'épaississait, que la nuit, que ma nuit bien-aimée, devenait lourde sur mon cœur.
Extrait de la nouvelle d'une nuit de Cléopâtre de Théophile Gautier, publiée en 1838. Le silence était si profond qu'on eût dit que le monde fût devenu muet, ou que l'air perdu la faculté de conduire le son. Le seul bruit qu'on entendit, c'était le chuchotement et les rires étouffés des crocodiles pâmés de chaleur qui se vautraient dans les joncs du fleuve. Ou bien quelques ibis qui, fatigués de se tenir debout, une patte pliée sous le ventre et le cou entre les épaules, quittaient sa pose immobile et fouettant brusquement l'air bleu de ses aisselles blanches, allaient se percher sur un obélisque ou sur un palmier.
Extrait de la nouvelle Le Chat Noir de Allan Edgar Poe, publié en 1843. Le chat me suivit sur les marches roides de l'escalier, et, m'ayant presque culbuté la tête, la première, m'exaspéra jusqu'à la folie. Levant une hache, et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel, s'il l'avait porté comme je le voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba, morte sur la place, sans pousser un gémissement.
Extrait du roman L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, publié en 1896. L'homme léopard, délivré du regard de Moreau, s'était dressé debout et, tout à coup, les yeux enflammés et ses énormes crocs de félin brillant sous ses lèvres retroussées, il bondit sur son bourreau. Je suis convaincu que seul l'affolement d'une excessive terreur put l'inciter à cette attaque. Le sol entier de cette soixantaine de monstres sembla se dresser autour de nous. Je tirai mon revolver. L'homme et la bête se heurtèrent. Je vis Moreau chanceler sous le choc. Nous étions entourés d'aboiements et de rugissements furieux. Tout était confusion. Et, un instant, je pensais que c'était une révolte générale.
Extrait de la nouvelle Le Cas de Dino Buzzati, publié en 1966. Mais Stefano resta médusé, le cœur battant la chamade. À 200-300 mètres du môle, en haute mer, le sinistre animal croisait lentement, sortant la tête de l'eau de temps à autre et regardant vers le rivage comme pour voir si Stefano venait enfin. C'est alors que la pensée de cette créature hostile qui l'attendait jour et nuit devint pour Stefano une obsession secrète. Dans la cité lointaine, il lui arrivait maintenant de se réveiller en pleine nuit avec inquiétude. Il était en lieu sûr, oui, des centaines et des centaines de kilomètres le séparaient du cas. Et pourtant, il savait qu'au-delà des montagnes, au-delà des bois, au-delà des plaines, le squale continuait à l'entendre.
Extrait du roman Frankenstein de Mary Shelley, publié en 1818. J'entrai dans la pièce où reposait le cadavre et fus conduit jusqu'au cercueil. Comment décrire mes réactions lorsque j'aperçus le corps? Je suis encore étranglé d'horreur et ne peux songer à ce moment terrible sans frémir d'angoisse.
l'interrogatoire, la présence des magistrats et des témoins, tout disparut comme un rêve lorsque je vis, couché devant moi, le corps sans vie d'Henri Clerval. Je manquais d'étouffer et me précipitant sur son corps, je m'écriai « Mes machinations criminelles t'ont-elles aussi privé de la vie ? Oh mon très cher Henri !»
Extrait du roman La nuit du chasseur de David Grubb, publié en 1953. Il s'interrompit un moment et Willa, immobile, souriante, écoutait avec bonheur. Le vent nocturne parcourait doucement la maison et elle pouvait percevoir le froid chintement du vent qui fait teinter la porcelaine dans le placard. Où l'argent est-il caché ? Mais à ce moment, Pell redevint immobile, mordant son doigt, pensant à John, si méchant, enfermé dans la chambre, derrière la porte sombre. « John est méchant, » dit-elle doucement. « Oui, oui, ne t'occupe pas de John pour le moment. Où l'argent est-il caché ?» dit le prêcheur à la voix un peu étranglée. La fureur si nettement proche, alors de la sombre surface des marais, leur fit décrivant des cercles furieux à travers les ombres, tachetés du soleil des hauts fonds. « Mais John m'a fait jurer, » dit-elle dans un souffle.
Extrait du roman « Les chats » de Marie-Hélène Delval, publié en 2005. Tout à coup, un éclair a illuminé la nuit, et j'ai vu un chat. La pierre représentait un chat gigantesque, assis dans cette pose d'idole que j'avais tant de fois observée. Comme si l'éclair avait donné vie à la pierre. Deux yeux se sont allumés, dans la tête de la bête. Deux prunelles aux reflets de vif argent. La gueule de pierre s'est ouverte sur un miaulement horrible. Le ciel s'est déchiré, vomissant des nuées incandescentes. Des astres tombant en longs traits de feu explosaient autour de moi, comme des bombes, incendiant notre petite ville que je voyais là-bas, au pied de la colline, se tordre dans un brasier de fin du monde, tandis que l'abominable miaulement sortait sans fin de la gueule de la bête. Alors, j'ai compris que l'enfer était venu prendre possession de notre terre.
Extrait de la nouvelle « La peur » de Guy de Maupassant, publié en 1882. Nous restions immobiles, livides, dans l'attente d'un événement affreux. L'oreille tendue, le cœur battant, bouleversé au moindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de la pièce, en sentant les murs et gémissant toujours. Cette bête nous rendait fous. Alors, le paysan qui m'avait amené se jeta sur elle, dans une sorte de paroxysme de terreur furieuse, et, ouvrant une porte donnant sur une petite cour, jeta l'animal dehors. Il se tut aussitôt, et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain, tous ensemble, nous eûmes une sorte de sursaut, un être glissé contre le mur du dehors vers la forêt. Puis il passa contre la porte, qu'il sembla tâter d'une main hésitante. Puis on n'entendit plus rien pendant 2 minutes, qui firent de nous des insensés. Puis il revint, frôlant toujours la muraille, et il gratta légèrement, comme ferait un enfant avec son ongle. Puis soudain, une tête apparut contre la vitre du Judas, une tache blanche avec des yeux lumineux, comme ceux des fauves, et un son sortit de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif.
Extrait de la nouvelle « L'auberge rouge » de Honoré de Balzac, publié en 1831. « Et cependant, je suis bon » s'écriait-il. « Oh, ma pauvre mère ! Peut-être en ce moment joue-t-elle gaiement à l'impérial avec ses voisines dans son petit salon de tapisserie. Si elle savait que j'ai seulement levé la main pour assassiner un homme, oh ! Elle mourrait. Je suis en prison, accusée d'avoir commis un crime. » Si je n'ai pas tué cet homme, je tuerai certainement ma mère. À ces mots, il ne pleura pas. Mais, animé de cette fureur courte et vive, assez familière au Picard, il s'élança vers la muraille. Et, si je ne l'avais pas retenu, il s'y serait brisé la tête.
Extrait du roman Dracula de Bram Stoker, publié en 1897. Un immense cri d'épouvante m'est parvenu par l'écoutille. Un de ces cris qui glacent le sang. Le second a jailli, littéralement, comme d'un pistolet. Sur le pont, un fou furieux dont les yeux roulaient au milieu d'un visage déformé par la terreur. « Au secours, au secours » a-t-il hurlé en regardant tout autour de lui, cherchant à percer l'édredon du fog. Sa terreur parut alors se transformer en désespoir, et ce fut d'une voix un peu plus ferme qu'il me dit « Vous devriez m'accompagner, capitaine, avant qu'il ne soit trop tard. »
Extrait de La Métamorphose de Franz Kafka, publié en 1915. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides. Son abdomen sur le haut, duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par la comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Mais que m'est-il arrivé ?» pensa-t-il.
Merci d'avoir écouté cette émission. Nous vous laissons sur BAC FM.